Et maintenant, on entend des gens qui disent « Ah, ça ne sera plus comme avant. On va vivre différemment. » Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas penser comme ça. Au contraire, en tant que chrétiens, nous devons accentuer ce que peut-être nous n'avons pas fait auparavant. Il faut qu'il n'y ait aucun changement. Un chrétien, il doit faire quoi? Il doit témoigner. Voilà, voilà les sujets de mon message aujourd'hui. Parce que, comme on dit, la vie y reprend. Et le travail d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est de témoigner. Il ne faut pas rester sans témoignage. Il ne faut pas. L'Église, elle va rester sur elle-même. Hein? Elle fait, comme on dit, du nombrilisme. Hein? Elle regarde son nombril, elle ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et donc, ce matin, comme je vous ai dit, nous allons voir ce que cela signifie, témoigner. Et ce que le Seigneur nous aide à mettre en pratique cela, pour que le Seigneur puisse être glorifié et pour que nous aussi nous puissions continuer à avancer. Et pour nous guider dans ce message, je vais lire un passage qui se trouve dans Acte 1, verset 8, que tout le monde connaît. Et ce passage dans Acte 1, 8, voilà ce qu'il nous dit. Le Seigneur, avant de s'en aller, il dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est le Seigneur qui nous dit « Vous serez mes témoins ». Et qui dit « témoin », il dit « témoignage ». Voilà pourquoi on va voir ce message en trois points. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Ensuite, on va voir être témoin de quoi? Troisième, c'est être témoin de quoi? Et être témoin de quoi? Deuxième partie, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. Pas de nous montrer nous-mêmes. Et voilà, alors je vais un peu expliquer cela, parce que nous avons besoin, encore une fois, nous devons faire ce que le Seigneur nous dit. Vous êtes des témoins, vous serez mes témoins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un témoin, c'est une personne qui a vu ou qui a entendu. C'est une personne qui a vu ou qui a entendu. Elle ne tient pas son témoignage dans l'ouï-dire. Oui, j'ai entendu dire que. Non, c'est quelqu'un qui a vu et il a entendu. Nous devons être témoins de ce que nous affirmons. Nous devons être témoins. Ce n'est pas l'effet de l'action, c'est-à-dire d'être là dans l'action, hein? Mais c'est de rapporter les détails de l'action. Pas être dans l'action, mais rapporter les détails de l'action. Vous savez, en matière de justice, il y a les témoins, n'est-ce pas? Chaque fois, est-ce qu'il y a des témoins? Alors, s'il y a des témoins, ils s'approchent. Il y a aussi l'appartement témoin. Il y a aussi la lampe témoin. Hein, pour qu'on puisse marcher dans l'obscurité. Et il y a aussi dans les sports, il y a le passage des témoins. Vous savez, dans les courses, on passe un témoin pour que l'autre, il continue à cheminer, à courir. Mais dans tous ces cas, dans tous les cas, on peut constater la fiabilité. La fiabilité, c'est la qualité essentielle. En tant que chrétien, nous devons être fiables, fiables. Et c'est ça qu'il est demandé à tout témoin. Alors, qui est-ce qui est le témoin fidèle pour nous? Mais c'est Jésus. Lui, c'est le témoin fidèle. Et nous devons être fidèles à tout ce témoignage que Jésus il nous a laissé. Bien sûr, on n'était pas là, mais nous savons de qui vient les choses qui nous sont dites dans l'Évangile. Ça vient de Jésus et ça vient des apôtres, de tous les disciples, tous ces gens qui ont témoigné ce qu'ils ont vu, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Et en plus, il y en a la plupart des apôtres au moins, tous ils ont donné leur vie pour ce qu'ils affirmaient. Sauf Jean, qu'il est mort de vieillesse. Mais oui, mes frères et sœurs, être témoin, c'est quelque chose de très important. Et Paul, il le rappelle à Timothée, dans 2 Timothée 2, 2, il dit, « Ce que tu as entendu de moi. » J'aime bien Paul lorsqu'il dit, « Ce que tu as entendu de moi. » Pourquoi il dit ça? Parce que Paul, c'était quelqu'un de fidèle. Paul, c'était quelqu'un qui rapportait tout ce que le Seigneur lui a dit. Voilà pourquoi il lui dit, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles. » À des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est des gens fidèles. Imaginez que les apôtres ou les disciples qui nous ont rapporté toutes ces choses-là, qui n'ont pas été fidèles dans ce qu'ils nous ont écrit dans la parole ou qui nous ont parlé de ces choses-là, notre foi, elle serait vaine. Notre foi, elle ne serait pas calquée sur quelque chose de sûr. Mais nous savons que notre foi, elle est calquée sur Jésus, le témoin fidèle. Et c'est lui qui va nous amener. Et il y a autre chose, le mot témoin dans le grec, hein, c'est le mot martus. Martus. Hein? Et c'est dit de celui qui, après avoir vu et entendu, Martus, après avoir vu et entendu, il s'engage à rapporter fidèlement ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Paul lui dit, ce que tu as entendu de moi. Et Jean, il nous dit dans son évangile, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons... Voilà, ils étaient des témoins fidèles. Et autre chose à propos de ce mot, hein, martus, hein, que c'est le mot, c'est en grec encore, c'est le mot qui devient, qui arrive, qui en français, c'est le mot martyr. Martyrs. Ils font quoi les martyrs? Ils donnent leur vie pour ceux qu'ils croient, dans les choses qu'ils croient. Et c'est des martyrs. Voilà pourquoi témoigner, c'est quelque chose de très important. Hein? Un témoin, c'est quelqu'un qui, oh bien sûr, le Seigneur il ne nous demande pas que nous devions donner notre vie. Si le cas il y a, oui, parce qu'il faut être fidèle en toutes choses. Pas seulement dans les choses que nous affirmons, dans les choses que nous croyons, mais aussi fidèle à Dieu. Mais il ne nous demande pas cela. Mais martyr, c'est le mot témoin. Nous devons apporter ce que nous avons entendu et ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes. Il faut que nous soyons fidèles. Alors, le deuxième point, c'est être témoin de quoi? De quoi devons-nous être témoins? De quoi devrons-nous être témoins? Et il y a un très beau passage dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, vous savez, hein, comme on dit, l'Ancien Testament, c'est la prérogative du Nouveau Testament. Ce que Dieu il a dit aux Juifs, hein, c'est valable pour nous. C'est pas seulement, il n'a pas dit ces choses-là seulement pour les Juifs, mais c'est valable pour nous. Et il y a un très beau verset dans Ésaïe 43, 10 à 12. On est dans le deuxième point, être témoin de quoi? Voilà ce qu'il dit, Ésaïe, chapitre 43, versets 10 à 12. « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur. C'est lui que j'ai choisi afin que vous sachiez, afin que vous croyiez et afin que vous reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi, moi seul qui suis l'Éternel. Et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui a fait des révélations, qui ai sauvé, qui a annoncé les événements, et pas vos dieux. Vous êtes mes témoins que c'est moi qui suis Dieu. De quoi devons-nous être témoins? Mais de l'unicité de Dieu, de l'unicité. Ici, c'est le peuple, au peuple d'Israël. Dieu, il dit, « Vous devez témoigner qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur, il y a un seul Dieu qui révèle. » Et ici, il parle des prophéties. Cherchez un autre livre dans lequel il y a des prophéties. Bien sûr, il y a le Nostradamus. Hein, ils disent que c'est un livre prophétique. Mais est-ce que toutes les prophéties se sont réalisées? Non. Pourquoi? Parce que cela, il est possible qu'à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ça que nous devons témoigner. Qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul Sauveur, qu'il y a un Dieu qui nous a révélé des choses qui sont commencées au commencement, qui se sont réalisées. Il y a des choses qui a prophétisées et qui vont se réaliser. Des fois, je demande, pourquoi est-ce que vous savez que Jésus doit revenir? J'espère que vous le savez, hein. Des fois, je demande, pourquoi Jésus doit revenir? Tout de suite, ils nous disent, il va venir pour nous prendre. Bien sûr, il doit revenir nous prendre. Mais Jésus, il doit revenir aussi pour accomplir les prophéties qui ont été faites. Car Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, la chose se réalise. Et il nous le dit dans Ésaïe, attendez là, parce que la chose, il va arriver. Quand on ne le sait pas, mais la chose, il va arriver. Qui d'autre Dieu, un autre Dieu, il peut dire cela, il peut faire cela. Regardez dans les livres des musulmans, les Corans, il n'y a aucune prophétie. Aucune. C'est seulement dans la parole de Dieu qu'on a ces prophéties et toutes. Je répète, toutes, ils se sont accomplis. Et toutes, ils vont s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu, il voit du commencement jusqu'à la fin. Parce que Dieu, il est souverain. Parce que Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Nous devons dire aux gens, de quoi devons-nous témoigner? Que Dieu règne. Dieu n'est pas absent dans ce monde. Même si on voit que le mal, entre guillemets, on peut dire qu'il avance plus que le bien. Mais ces choses-là, elles arrivent parce que Dieu le permet. Nous devons dire que Dieu règne, que Dieu est souverain, qu'il y a un seul Dieu, un seul Sauveur. Et il y a aussi un seul Dieu qui a prophétisé les choses, et ces choses, ils vont arriver. Voilà pourquoi nous devons dire ces choses-là. Et puis, il répète encore une fois au verset 12 et 13, dans Ésaïe toujours, il dit, « Vous donc, vous êtes donc mes disciples, mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début, et personne ne peut délivrer, qui que ce soit de mon pouvoir. » Personne ne peut délivrer de mon pouvoir, comme disaient les frères tout à l'heure. Ne craignons rien. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Personne, il peut nous enchaîner. Et il continue, je suis là depuis le début. Et personne ne peut délivrer, qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourra s'opposer? Qui pourra s'opposer à notre Dieu? Personne. Mes chers frères et sœurs, comme le peuple d'Israël, nous sommes invités à notre époque. Nous sommes invités à proclamer haut et fort l'unicité de Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il est, Et aussi, son message, c'est la bonne nouvelle. Comme il dit ici au peuple d'Israël, il lui a toujours dit, « Revenez à moi, vous avez péché, mais revenez à moi. Je suis un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne. Revenez à moi, je vais oublier vos péchés. » Et c'est exactement ce que nous devons faire, et c'est exactement ce que le monde, il doit faire. Il doit croire. Jésus, il a dit, « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Beaucoup de gens, ils disent, « Ah, je crois en Dieu. » Oui, tu crois en Dieu peut-être, mais est-ce que tu crois à ce que Dieu il a fait, à ce que Dieu il a envoyé? Est-ce que tu crois à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qu'il n'y a aucun autre sauveur que lui? Parce que croire en Dieu, Jacques nous le dit, hein, les diables aussi, ils croient que Dieu existe. Mais oui, mais c'est pas pour autant qu'il est sauvé. Pour croire, pour être sauvé, il faut croire et en Dieu qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Pour quoi faire? Pour mourir à ma place, pour mourir à votre place. Voilà pourquoi nous devons être les témoins de ce grand Dieu que nous servons. Et nous ne devons avoir peur de rien, de personne. Troisième point, être témoin de quoi? Être témoin de quoi? Bien sûr, c'est de la bonne nouvelle. Et pour ce point-là, il y a dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, voilà ce qu'il dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parce qu'il faut tout lire, vous savez. Il faut tout lire. Et pour comprendre un verset, il faut regarder le contexte de ce verset. Comment est-ce que le Seigneur il a sorti cette phrase? Et le contexte, justement, on voit dans Matthieu 24, hein, jusqu'au verset 14. On ne va pas les lire, mais je vais vous résumer ce qu'il y a, le contexte. Au verset 1 et 2, les disciples, ils font remarquer au Seigneur, voilà, ils sont devant le temple et il leur a dit, et ils disent, ah, quelle belle pierre, quel beau temple et tout ça. Ah, regarde Seigneur. Et Jésus, il leur dit quoi? Il dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Oui, 70 ans après la crucifixion de Jésus-Christ, les temples de Jérusalem, terminés. Vous me direz pourquoi les temples ont été détruits? Parce que Jésus, c'est le temple de Dieu. Et dans ces temples, ils offraient des sacrifices, ils faisaient tout, ils allaient au temple, ils faisaient tout. Mais en détruisant ces temples, Dieu il dit au peuple d'Israël, c'est terminé les temples. Maintenant, il y a mon Fils qui a donné sa vie pour vous. Hein, d'ailleurs, Jésus, il a dit à la Samaritaine, vous adorez sur cette montagne, et aux Juifs, vous adorez dans ce temple. Mais il viendra un jour où n'importe où vous êtes, vous pouvez adorer Dieu. C'est ça que le Seigneur nous dit. Jésus, ensuite, toujours dans le contexte, hein, parce que je dis, on ne va pas lire, c'est parce que c'est jusqu'au 14, ça nous prendrait beaucoup de temps. Ensuite, Jésus, il dit quoi? Il dit à la fin des temps. Hein, et la fin des temps, ça a commencé lorsque Jésus il est venu ici-bas. Il continue, il dit à la fin des temps. Il dit, à la fin des temps, il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Et il les annonce hein, à travers le monde. On peut voir aujourd'hui à travers le monde, on peut voir ces événements qui se manifestent. Mais ils se manifestent, comme on dit, pas à la force maximale. Mais ils se manifestent et tout ça, c'est un signe. Qu'est-ce que c'est qui arrive? Au verset 5 de 24, hein, chapitre 24, il dit, il y aura des séducteurs. Regardez aujourd'hui autour de nous, il y a des églises qui poussent comme des champignons. Il y a des prédicateurs qui prêchent tout autre chose que l'évangile, qui essaient de séduire ceux qui appartiennent au Seigneur. Et ces séducteurs, c'est qu'ils appartiennent à Satan. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent éloigner les gens du vrai Dieu que nous servons. Au verset 6 et 7, il dit, il y aura des guerres. Regardez le monde aujourd'hui. Il y a des guerres partout. Au verset 7 encore, il dit, des tremblements de terre. Il y en a des tremblements de terre, n'est-ce pas? Il continue au verset 9, il y aura des persécutions. Des persécutions. Au verset 10, des trahisons. Des trahisons. Au verset 11, des faux prophètes, des sectes. Et au verset 13, il y aura un manque d'amour. Il y aura un manque d'amour. Et ça, on peut le détecter même dans les églises, malheureusement. Et pourtant, nous sommes des chrétiens. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et pourtant, il y a un manque d'amour, même dans les églises. Ça c'est un signe. On parle beaucoup du refroidissement des glaces. Mais il faut parler du refroidissement de l'amour. Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'eux-mêmes. Ils ne s'occupent pas des autres. Et ça, c'est un manque d'amour. Et il continue, le Seigneur. Et au verset 14, il y aura encouragement à la persévérance. Il nous dit, mais continuez, malgré toutes ces choses-là, persévérez jusqu'à la fin. Et c'est au verset 14 que je vous ai lu dans Matthieu 24, 14, qu'il dit, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Il va se passer quoi? Verset 24, je vous le lis. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes. Alors viendra la fin. Vous me direz, mais il y a beaucoup d'endroits où la parole de Dieu encore n'est pas prêchée. Donc, cette fin du monde, elle est loin. Voilà, Ça, c'est les raisonnements des gens. Mais Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il faut regarder jusqu'au fond. Et Dieu, il nous explique toutes ces choses-là. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'on prêche, nous? Est-ce qu'on prêche l'évangile du royaume? Ou est-ce qu'on prêche l'évangile de la grâce? C'est l'évangile de la grâce qu'on prêche. Pourquoi? Parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui le fait. Et tout cela grâce à Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui va arriver. J'ai un verset que j'ai pris là, et c'est Paul qui nous le dit. Acte 20, 24. Voilà ce qu'il dit, Paul. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il n'annonçait pas l'évangile du royaume. Il annonçait l'évangile de la grâce de Dieu. Et dans le verset Matthieu 24, 14, il nous est dit l'évangile du royaume. Alors viendra la fin. L'évangile de la grâce, il s'arrête quand? Ben, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, c'est là qu'il s'arrête. Et c'est là qu'une fois qu'il a enlevé ses enfants, ici-bas, comme je dis souvent, il faut les croire parce que c'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il va y avoir la période de la tribulation. C'est la colère de Dieu qui va s'abattre ici, surtout ceux qui ont refusé l'évangile de la grâce. Surtout ceux qui ont refusé l'évangile de la grâce. Et il revient plus loin, encore un verset qu'on lit à propos de cet évangile de là. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a des endroits où l'évangile, il n'a pas été prêché, l'évangile de la grâce. Vous me direz, mais comment ces gens, ils vont être jugés? Comment est-ce qu'ils vont être sauvés? Est-ce qu'ils vont être perdus? Dieu seul connaît ces choses-là. Ne nous posons pas des questions qui nous dérangent, qui peut-être nous mènent au doute. Mais laissons Dieu qu'il est un juge juste et qui détermine toutes ces choses. Mais dans les versets, l'autre, il nous dit que cet évangile sera prêché. L'évangile, il sera prêché à toutes les nations. À toutes les nations. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où l'évangile, il va être prêché partout. Et Apocalypse 14, versets 6 et 7. « J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel, ou du royaume, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux et la terre. » L'évangile du royaume, c'est l'évangile du jugement. Après, il viendra la fin. Et c'est vrai que tous ceux qui accepteront cet évangile, il n'y aura pas d'excuses. Ah, mais je n'ai pas entendu, personne ne m'a parlé. Non, parce que ce n'est pas les hommes qui vont annoncer l'évangile du royaume, mais c'est des anges. La parole, il le dit, et ce n'est pas moi. Il dit qu'un ange, il va aller partout annoncer cet évangile à toute nation. À tous les peuples. Il n'y aura personne qui dira, mais je ne savais pas. Alors là, en entendant ça, ils ont le choix de faire ou l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ceux qui l'acceptent, ils vont rentrer dans le royaume et ceux qui ne l'acceptent pas, ils vont subir le jugement. Alors voilà, c'est alors, Jésus parle, alors viendra la fin. Parce que c'est le jugement de Dieu qui va se manifester. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important que nous devons proclamer la bonne nouvelle. La bonne, c'est quelque chose de bon. Il est bon, l'évangile. Il y a ces petits gâteaux, la BN, vous savez, avec du chocolat. C'est bon, mais c'est l'évangile, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. La bonne nouvelle. Et c'est de cela que nous devons témoigner. Et c'est une fois que cet évangile du royaume a été prêché, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. C'est le signe qui va annoncer la fin. C'est le signe qui va dire maintenant, je suis le Dieu souverain, je m'enalte à tout ça. Encore une fois, je vous donne la grâce de pouvoir accepter l'évangile du royaume, ceux qui l'acceptent, c'est bien, ceux qui ne l'acceptent pas, ils vont être condamnés. Et il est donc question de témoigner de la bonne nouvelle. Et vous savez, on l'a lu ce verset, voyons un peu en détail ce verset. Il dit la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Dans Ésaïe 52, 7, voilà ce qu'il dit, cette bonne nouvelle du royaume. Déjà dans l'Ancien Testament, que les méchants abandonnent sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Cela parle de la bonne nouvelle. De l'évangile. C'est exactement ce qui nous dit l'évangile aujourd'hui. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Confessez les péchés. Tournez-vous vers le seul qui peut vous sauver, Jésus-Christ. Et alors Dieu, il aura compassion de vous. Déjà dans l'Ancien Testament, il disait ces choses-là. Mais aujourd'hui, l'évangile dit exactement la même chose. Et c'est l'évangile du royaume, c'est exactement la même chose. Il proclame quoi l'évangile du royaume? Pourquoi l'évangile du royaume? Parce qu'il proclame la royauté de Dieu. Il proclame, c'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, il a toujours été préparé. Depuis le commencement, parce que Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le Messie. Malheureusement, le peuple juif, il attend toujours ce Messie. Mais nous savons que ce Messie, il est venu. Ce Messie, il a donné sa vie. Ce Messie, il nous a sauvés. Et ce Messie, il s'est assis à la droite de Dieu. Et il attend qu'une seule chose. Le son de la trompette, il va venir, il va nous prendre. Et ensuite, il va manifester sa gloire. Il ne sera plus, il ne viendra plus dans l'humilité, mais il viendra dans la gloire. Et derrière lui, tous ceux qui lui ont fait confiance, nous, son Église. Beaucoup de gens, ils ne croient pas à l'enlèvement. Mais la Bible est claire, il nous a dit que le Fils, il viendra dans la gloire avec ses serviteurs. Et pour qu'il puisse venir, revenir avec ses serviteurs, il faut automatiquement que les serviteurs, ils aient été amenés au ciel. Parce qu'il vient du ciel. L'évangile du royaume, c'est la royauté de Jésus-Christ. Jésus, le Messie. Et il nous est dit dans les psaumes 96, 10, « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. » C'est ça que nous devons dire. De ne pas avoir peur de tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu contrôle tout. Dieu, les choses qui peuvent nous arriver, elles sont permises par Dieu. Vous en souvenez, Job? Et il lui a dit, Satan, enlève-lui tout ce qu'il a et tu verras qu'il va te maudire. On lui a enlevé tout ce qu'il avait, on lui a enlevé la santé et tout. Et il a dit, Dieu m'a donné et Dieu l'a enlevé. C'est ça. Par contre, sa femme, normalement, ça doit marcher ensemble, n'est-ce pas? Mari et femme. Voilà pourquoi on prie beaucoup pour que les gens de nos familles ils soient sauvés tous, pour que le Seigneur il puisse nous amener. Sa femme de Job, il a dit, mais regarde dans quel état tu es. Nous étions riches, nous avions tout. Maudit Dieu, ça c'est sa faute ce qu'il t'arrive. C'est ça. Et il lui a dit, tais-toi, femme. Il a dit, Dieu il nous a donné, Dieu il nous a retirés. Et cette fidélité, cet homme, Job, qui ne savait pas pourquoi ces choses-là lui arrivaient. À la fin, qu'est-ce qui lui arrivait à la fin? Il a reçu les doubles de ce qu'il avait. Lisez le dernier chapitre. Oui, le Seigneur, il enlève des fois pour voir notre réaction. Mais le Seigneur, il nous donne les doubles, comme il a fait à Job. Et c'est ça que le Seigneur, il nous dit de faire. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. » Dans le monde entier. On l'a vu dans Apocalypse. Il sera prêché dans le monde entier. Et tous, ils vont se donner au Seigneur, ceux qui le veulent. Hein. Mais on va voir dans les ciels, Apocalypse 5 et 6, vous allez voir, il y a tous les gens, des milliers, des milliards de gens tout autour du trône de Dieu, de chaque nation, de chaque tribu, de partout, ils sont là pour glorifier Dieu parce qu'ils ont entendu cette bonne nouvelle. Sera prêchée dans le monde. Et vous savez, si ce n'est pas nous, chrétiens, qui témoignons ou qui prêchons la bonne nouvelle, qui voulez-vous qu'il le fasse? Qui voulez-vous qu'il fasse ça? J'étais à l'enterrement de ma belle-mère la semaine dernière. Et voilà que le curé, le prêtre, en parlant du mort, il a dit, ben voilà, on meurt tous. Hein. Alors il a sorti, pourquoi est-ce que nous mourons? Ah, je ne sais pas. Non, tu ne sais pas? On meurt parce qu'on est des pécheurs. Et il dit, ah, je ne sais pas. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il faut lire ce que Dieu dit et dire qu'est-ce que Dieu dit et pas ce que des hommes ils peuvent dire. C'est ça être chrétien. C'est ça être enfant de Dieu. Donc cette bonne nouvelle, nous devons la prêcher partout, partout, à tout le monde, pauvres, riches, des différentes couleurs, nationalités, tout ça. À tous. Et des fois, on se trompe, vous savez. Au commencement, quand je me suis converti, je faisais des distributions. Quand je voyais une belle maison, je me disais, oh, celui-là, il n'a pas besoin de l'évangile. Voilà. J'étais dans la faute à tous, riches, pauvres, tous ont besoin, car tous ont péché et ils ont besoin de la grâce de Dieu. C'est cela que nous devons témoigner. Pourquoi devons-nous prêcher cela? Il nous est dit pour servir des témoignages. Des témoignages. Nous sommes en témoin. Notre vie, il témoigne beaucoup plus. La façon dont nous vivons, la façon dont nous parlons. Qu'ils ne soient pas les gens convertis qui nous disent « Mais toi, tu es chrétien, toi? Regarde ce que tu fais. » C'est ça le témoignage. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre en pratique toutes ces choses-là. Et il y a dans Pierre, 1 Pierre 3, versets 15 à 16, il nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. » C'est ça. Il faut donner raison, comme il a dit Jean-Pierre tout à l'heure, notre espérance est en Jésus-Christ. Pourquoi tu es chrétien? Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Et Jésus, il m'a donné cette grâce, cette espérance qu'il va venir me prendre. Et j'attends cela. Mais il faut le faire avec douceur et avec crainte. Et pas aller vers les gens, tu es pécheur, tu vas en enfer, tu fais ça, tu fais ça. Non, il faut leur montrer ce qu'ils sont. Et ce qu'ils doivent faire pour pouvoir éviter cet enfer, ce lieu de souffrance. Comme vous savez, celui qui a parlé le plus de l'enfer dans la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si Jésus n'en a parlé, c'est que l'enfer existe. N'écoutez pas ceux qui disent, ah Dieu, Dieu il est bon, Dieu est amour, il n'enverra personne en enfer. Je le dis toujours, si on va en enfer, c'est parce que nous le voulons. Mais Dieu, il ne le veut pas. Dieu veut que tous, ils arrivent à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Si nous allons en enfer, c'est parce que nous l'avons voulu. Et si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, vous savez, hein, Dieu, il nous dit, que ta volonté soit faite. Vous voyez, on n'a pas un Dieu qui... Il nous dit seulement, tu l'as voulu, mais vas-y mon enfant, j'ai fait tout pour te sauver, mais tu n'as pas voulu. Alors, va loin de moi. Et c'est ça, ça c'est la mort éternelle, une vie éternellement loin de Dieu. Et c'est ça que nous devons éviter. Voilà pourquoi, en terminant ce message, c'est un souhait que je fais pour moi-même, mais aussi pour vous tous, pour nous en tant qu'Église biblique d'Argenteuil, que nous soyons un bon témoignage, que nous soyons des témoins dont la fiabilité ne va pas être en jeu, que nous soyons fidèles. Paul nous le dit, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que vous soyez fidèles. Voilà, que nous soyons fidèles et que nous soyons bons témoignages dans les endroits où est-ce que nous sommes, dans nos villages, dans notre travail, à l'école, partout où nous sommes, car nous reflétons ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Alors que le Seigneur nous aide, car les temps ils sont mauvais. Alors à chacun de nous de se dire, il faut que j'accomplisse ce que le Seigneur m'a commandé. Vous serez mes témoins apporter la bonne nouvelle de la grâce partout. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à être ses lumières. Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pas pour montrer nous-mêmes, mais pour montrer Jésus-Christ. Parce que le monde, il est dans les ténèbres. Et nous, nous sommes là, comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière témoin. Voilà. Dans les ténèbres, il y a cette petite lumière, voilà, qui montre et la sortie de ce marasme dans lequel nous sommes, dans lequel se trouve ce monde. Mais nous savons qu'un jour, Jésus, il va revenir et il va nous prendre. Alors, faisons tout notre possible afin que lorsqu'il va revenir, il nous trouve à l'œuvre et pas assis confortablement en attendant je ne sais pas quoi. Car c'est alors que le Seigneur il nous dira, « Bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos que ton maître a préparé pour toi. » Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.